Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Salut Charlie!
Salut Alex!
On reçoit aujourd'hui le groupe préféré d'Isabelle et Patrick Balkany.
Ah bon?
Les Innocents.
Oh oui, c'est malin.
Oh, moi je trouve ça fou ce groupe qui se soit reformé.
Ah, pour moi, les Innocents, tu sais, ils ont toujours été là. Hein.
Oui, c'est vrai, ouais. Mais enfin, moi ça me rassure pour notre avenir, je vais te dire.
Pourquoi?
Parce que, bah imagine si un jour on se séparait.
Ah, ça n'arrivera pas.
Bah pourquoi?
Bah parce que tu n'y arriveras pas sans moi.
Ouais, peut-être, mais enfin, non, mais allez, on se reforme 20 ans après, quoi, ce serait fou.
Mais j'espère qu'on tirera les leçons de ce qu'on vit en ce moment.
Ah oui, ouais. Et par exemple, si on se reforme, on prend pas Guillaume, comme ça.
Non, c'est pas ça que je pensais. Pourquoi? Enfin, non, je pense qu'on ne fera plus de brève.
Alors, on fait pas de sujet d'actu non plus parce que ça coupe le rythme
de
l'émission.
Non, ça c'est l'émission.
Et puis on prend pas d'invités parce que ils ont pas tous des trucs intéressants à raconter.
Mais ça n'a rien à voir en face. Si ça se trouve dans 20 ans, on se reformera pour présenter Motus.
Ça serait super, ça serait un monde parfait.
Ah oui, la chanson des Innocents,
ouais, je suis fort.
Non, moi dans 20 ans, je me verrais bien animer un truc engagé, tu vois, qui fait parler des sociologues, des gens de la société civile. Pas toi.
Non, moi dans 20 ans, je me verrais plutôt sur un canapé rouge, présenter des trucs sympas avec des vedettes qui parlent de leur vie le dimanche après-midi par exemple.
Ah ouais, je vois. Ouais. Dans 20 ans, tu veux faire Michel Drucker.
Bah oui, mais toi, dans 20 ans, tu veux faire Raphaël Glucksmann. Alors
non, quand même.
Oui, enfin, bon, de toute façon, dans 20 ans, on sera toujours mieux à deux, quoi. Comme aujourd'hui.
Oh, putain, c'est beau ce que tu dis.
Je vais te chialer.
Bonjour la France Inter, bienvenue dans la Start-up émission, cet espace ouvert où la blague et l'actualité se retrouvent autour du baby-foot après le lunch livré par Deliveroo. Et si on reconnaissait une nationalité européenne? C'est une proposition de Benoît Hamon. Alors ok, c'est pas gagné d'être patriote européen quand on l'est déjà pas complètement en France.
Aux armes citoyens, tête de chien, formez vos bataillons, bande de couillons.
Sur les sites de musique en ligne, les algorithmes permettent de nous faire des recommandations. Les chercheurs ont observé que cela nous influence à ce point que ça modifie nos goûts musicaux et on se retrouve à acheter des morceaux que foncièrement on n'aime pas forcément. Bref, l'algorithme fait bien plus que décider pour nous. C'est la déprime générale, paraît-il. Et cela a des répercussions sur la création musicale. Dans les titres à succès du moment, colère et tristesse prédominent. Vous trouvez, vous, que les tubes du moment, ils sont plombants?
De temps en temps, je pleure encore comme ça, sans raison.
Le médecin m'a dit que c'était normal, que ça allait se passer.
Notre remède à la déprime s'appelle Visorec, mais ne le prenez pas comme un encouragement à vous lancer dans la chanson.
Allez non, pas aujourd'hui. Mais belle équipe autour de la table quand même à 17h20, celle qui n'est pas innocente dans ses choix musicaux, non, elle est parfois inconsciente dans ses choix musicaux, c'est Mélanie Bauer, bonjour.
Bonjour, alors je suis très très heureuse de chroniquer aujourd'hui les Innocents parce que grâce à eux, je vais enfin pouvoir vous expliquer ce que j'attends de la pop française.
Oh là là, que de promesses à 17h30. Celle qui vient de pression. Celle qui vient de Suisse en train pour être payée au salaire français. Vous dire si elle est de gauche. C'est Christine Gonzalez. Bonjour.
Bonjour. On va jouer à qui veut gagner des millions avec Albert Camus. Puis là, il est hyper chaud, et hyper excité de jouer, hein, Bébert.
L'art et la révolte ne mourront qu'avec le dernier homme.
Oui, il va se réchauffer.
Une demi-heure. 17h40, celui dont les choses sont plus ordonnées sous son cuir chevelu qu'au-dessus, c'est Tom AVDB, bonjour.
Bonjour. Alors moi, je vais... vous savez que moi, je suis toujours sur la brèche de l'actualité judiciaire. Oui, rien ne me révolte plus que l'injustice. Et je vais donc vous parler du procès Patrick Balkany.
Chic. Inintéressant. À 17h55, celui qui chante l'actualité quand elle ne l'enchante pas, Frédéric Fromet, viendra clôturer cette émission.
Et voici ceux qui vont faire monter le son dans l'open space. Vous êtes, attention, je vous laisse nous le dire en cœur, vous êtes...
Les Innocents.
Comprends. France Inter, Charline Vanunacker, Alex Vizorek, par Jupiter.
JP Natav, Jean-Cri Urbain, bienvenue dans Par Jupiter, les Innocents sont avec nous.
Hello.
Pour votre nouvel album qui s'intitule 6 et demi.
Il est plus si nouveau que ça, hein, depuis le temps qu'on...
Ah oui, c'est vrai.
Ça fait deux mois qu'on va en parler.
Février, mars.
Votre dernier album.
Dernier, ouais, on peut dire dernier. Là, au bout de deux mois, ça devient le dernier.
Maintenant que le streaming, on ne sait plus. Mais là, je l'ai en main. 6 et demi parce que c'est le 6e et demi. Il y a un demi qui traîne quelque part.
Il y avait le demi-enfantin que j'ai rajouté, parce que j'en prie vous les six, je trouvais que c'était un peu... Je sais pas, ça me, graphiquement, tout ça, 6, il y a une seule syllabe.
Si on est un peu cinéphile, on pense à Fellini.
Non.
Oui, mais qui estimait que c'était pas vraiment son neuvième film.
C'est un problème de plagiat. Non,
c'est pas ce que je voulais te dire.
Personne n'avait remarqué.
Un cinéaste important estimait que c'était pas vraiment son neuvième film, parce qu'il faisait une sorte d'introspection par la projection dans Mastroianni du métier de cinéaste. Rien à voir avec ça.
Nous, c'est un vrai disque.
Ouais, mais c'est pas d'introspection, pas de réflexion sur le métier.
Ça vient plutôt de notre façon de travailler. J'ai dit 6 et JP, voilà, il fallait qu'il dise quelque chose. Donc il a dit
que toutes les 2000 décisions sont collégiales.
Il faut dire que c'est un album plein. Le demi date d'un petit peu. Voilà. Alex Vizorek, comme vous avez le micro.
Je vais même le garder parce que justement, votre méthode de travail, je trouve ça très intéressant et assez unique, je crois, dans les couples musicaux français. C'est-à-dire que parfois.
Mais c'est vrai qu'on est plus inspiré par Laurel et Hardy que par des.
Je vous laisse dire qui est qui. Ça me regarde pas finir. Physiquement, vous êtes tous très bien.
Tous autant que nous sommes.
C'est-à-dire que chez Souchon, vous le dites, on sait bien qui écrit les paroles, qui écrit la musique. Et chez vous, ça change toujours. Parfois, vous écrivez une partie à deux et puis une toute
seule. Variété.
Ouais, mais alors comment ça marche? Qu'est-ce qui se passe? Comment le premier arrive avec un morceau de texte, avec un morceau de musique?
Il n'y a pas deux albums qui ont été faits pareil, en fait.
Il n'y a pas deux chansons qui ont été faites pareil, j'ai l'impression. Même.
D'abord, si, un album, il répond souvent à la manière de travailler qu'on a pris sur le dernier. On se dit, oh non, plus comme ça.
Plus jamais ça. Ouais.
Donc, c'est vrai que l'album d'avant, Mon Arrive, on était très, très, on va dire, soudés et puis un petit peu stressés parce que c'était vraiment le retour. Donc on voulait tout partager ensemble.
Ouais, il y avait une sorte de gémellité à retrouver, fallait reprendre la route ensemble.
Voilà. Et donc c'était bien, mais ça prend énormément de temps. Mm-hmm. Et puis c'est pas forcément mieux, mais c'est bien. Ouais. Mais voilà.
Et puis c'est obligé à des compromis qui sont pas complètement, qui sont un peu contre nature. Par exemple, Jean Cry est beaucoup plus de la journée, moi beaucoup plus de la nuit. Donc quand on décide de tout faire à quatre mains, c'est un peu compliqué, mais il y en a toujours un qui attend l'autre et puis ça. Alors que là, voilà, c'est plus facile. Là, on se croise.
Vous voyez beaucoup entre les albums que vous faites ou pas?
Alors il y a eu des moments où, en fait, le moment où on s'est le plus vu sans faire d'album, c'est le moment où on faisait pas Les Innocents. C'est le moment où, après le split et avant qu'on décide de refaire le groupe. Là, c'était cool parce qu'on se voyait, on n'avait pas de disque à faire et donc on se voyait facilement pour le plaisir,
ouais.
Boire des coups, machin.
Que là, ça vous gave d'être l'un l'autre.
Mais après une journée, chacun a quand même.
Mais on se connaît un peu par cœur. C'est vrai, on s'en rend compte parce que là, on est en train de répéter avec des musiciens.
J'ai cru qu'on est en train de répéter la même chose qu'à la dernière émission de France Inter. On a fait il y a 15 jours.
Et donc, c'est vrai qu'on se rend compte que finalement. Oui, on se connaît tellement qu'on n'a pas besoin de vraiment se parler quand on est en train de chercher une chanson, un arrangement, construire une liste de concerts, par exemple une liste de morceaux. On sait d'avance à peu près.
On sait lire sur le visage de l'autre.
Ce que va dire l'autre. Hein, c'est très agréable. Hein.
Un petit signe déceptif comme ça, un petit doute comme ça. Voilà, on sait. Il y a un travail sur le faciès qui est quand même assez étonnant.
Que les gars de Daft Punk, ils peuvent pas, par exemple.
Exactement.
Est-ce que Mélanie Bauer peut poser sa question?
Pardon, Mélanie.
Ouais, on est dans. Merci beaucoup, c'était hyper intéressant. Ça m'a un petit peu impressionné. On est dans l'intime de l'intime avec ce disque, hein, parce qu'effectivement, vous jouez d'une dizaine d'instruments chacun. Et puis peut-être la seule oreille extérieure, c'est Dominique Ledudal, hein, que vous connaissez aussi depuis 2000 ans du Studio Garage.
Du coup, on a perdu là déjà. Studio Garage, Dominique Ledudal.
C'est la grande histoire de la pop.
Non, c'est le premier studio où j'ai mis les pieds quand j'avais 20 balais. J'ai fait c'est ça que je veux faire comme métier. Après, j'ai mis 20 ans à avoir un double des clés. Et en fait, on y travaille. Enfin, on a fait nos premières maquettes là et on y est toujours. Donc c'est quand même un des rares beaux exemples de fidélité, parce qu'on dit toujours dans ce métier, hein, les artistes, vous savez comme ils sont. Nous, jusqu'à présent, ça marche encore. Et puis surtout, ça marche parce qu'il nous connaît.
On habite à côté aussi.
Il peut s'interposer. On est venu habiter à côté aussi.
Il cherche une explication, en fait.
Non. Donc vous êtes dans une espèce de bulle comme ça, avec ce trio, hein, avec ce membre caché.
Il n'y a que lui qui peut s'interposer entre nous, déjà.
Oui.
Quand ça frite, il sait parler à l'un, puis à l'autre.
Et il n'est pas là aujourd'hui, donc faites gaffe quand même, les gars.
Il fait pas la promo, mais on flippe un peu. On flippe un peu du jour à faire la promo. Parce que
et ce qui est épatant, c'est que de cette intimité, de ce son que vous connaissez par cœur, de ces instruments que vous connaissez par cœur, vous arrivez à faire une pop qui est très très fine et en même temps qui touche le grand public. Vous avez une explication pour ça? C'est quoi? C'est la grâce? C'est la chance?
Qui a touché le grand public, on peut dire, parce que là on ne sait pas.
Vous pensez qu'il ne marchera pas, ce disque-là?
On sait pas. Non, mais on ne sait pas. Le grand public, je ne sais pas à partir de quoi on peut dire.
Là, France Inter par Jupiter, par exemple.
Oui, enfin là, on avait 20 minutes, effectivement.
Ça dépend
je
si
sais
le
pas,
titre
peut-être qu'on a écouté aussi.
Radio aussi.
Ouais. Peut-être qu'on a écouté beaucoup de chansons que.
Enfin, beaucoup
on,
de gens écoutaient.
On fait partie du grand public, en fait. Et ouais. Je pense qu'on a quand même. On a toujours eu cette volonté de faire des chansons qui passent à la radio, même avant de dire on va vendre des disques. Je crois qu'on.
Moi, j'avais le c'était une notion assez vague. C'était les jukebox aussi.
Mais je crois que l'idée, c'était que ça passe à la radio. C'est très, très, très agréable.
Et pourquoi les cow-boys et les indiens?
Parce qu'on est des gamins, ça s'appelle 6 et demi, tu vois. On n'a pas encore 7, c'est 6 et demi. Non, mais parce qu'on est, on est assez conscient d'être privilégié d'avoir ce petit terrain de jeu qu'on n'a pas épuisé, dans lequel je crois qu'on amène encore vachement de. Ça nous excite encore énormément de faire un disque comme il y a 30 ans. On n'a jamais l'impression d'avoir tout dit ou d'avoir fait. Si, ouais, quand on est mal luné, on peut dire. Bon,
il y en a qui n'ont pas l'air moins sûrs
de me regarder quand tu dis ça.
Non.
Toutes les choses que vous avez
plaisir,
encore à dire.
On a du plaisir à monter. On a vraiment du plaisir. Donc ce serait plutôt même une attitude. Ce serait un peu snob de faire comme si on nous la faisait pas. On savait qu'on avait la maturité et tout, parce que c'est pas vrai. Ça nous.
J'ai tellement envie de vous inscrire aux Amours quand je vous vois.
JP Nataf, Jean Curbin sont avec nous. Les Innocents. On va en parler tout à l'heure, bien sûr, avec Manuel Nimboer. En attendant. Marvin Gaye. Marvin, j'ai dit. Ouais, Sunny. Ouais, ouais.
Marvin Gaye.
Sunny. Yesterday my heart was filled with rain. Sunny. You smiled at me and really eased the pain. Oh, the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one, so true, I love you. Sunny, thank you for the sunshine, okay? Oh, Sunny, thank you for the love you brought my way. Oh, you gave to me your all and all. Now I feel about 10 feet tall. Sunny one, so true, I love you. Sunny, thank you for the truth you let me see. Yeah, Sunny, thank you for the facts from A to Z. All my life was torn like a windblown sand. Then a rock was formed when you held my hand. Sunny one, so true, I love you. Yes, yes, Sunny. Thank you for the smile upon your face. Oh, Sunny, thank you for that gleam that flows with grace. Oh, you're my spark of nature's fire. You're my sweet, complete desire. Sunny one, so true.
Écoute France Inter, il y a du soleil sur l'antenne. C'est par Jupiter, il est 17h20, on accueille les Innocents. Et pour les entourer, Alex?
Eh bien, il y a Mélanie Bauer qui parlera de l'album, Christine Gonzalez qui parlera avec Albert Camus, et nous avons Thomas VDB. Écoutez, parce que il a dû imprimer des captures d'écran parce qu'il n'avait plus
son
internet.
J'ai fait des photos avec mon téléphone de mon écran d'ordinateur que j'ai imprimé parce que j'avais pas internet à la maison, il est cassé, il marche plus. Donc j'ai réparé en faisant des photos.
Vous lirez votre capture d'écran tout à l'heure. Très bien. C'est moderne, c'est le service public. Bienvenue à Radio France. Il est 17h21. Les informations.
Ah. Le journal de presque 17h17.
C'est pas comme ça que ça se passe, c'est pas
passe-moi la salade, je t'envoie la rhubarbe.
Et on commence par les titres.
Dans l'affaire Big Malion, le recours de Nicolas Sarkozy auprès du Conseil constitutionnel a été rejeté. Il sera donc bien jugé.
Alors, j'en connais un qui se réjouit déjà à l'idée de faire de la coloc avec son ami Balkany dans le quartier VIP de la santé.
Le parquet a requis 4 ans de prison ferme et 10 ans d'inéligibilité pour Patrick Balkany et puis 2 ans ferme contre sa femme.
Seulement 2 ans pour Isabelle. Bah voilà, bravo la parité. J'espère que Marlène Schiappa va un peu surveiller ce dossier-là aussi parce que...
Est-ce qu'il y aura des brèves ?
Oui, le parquet a requis toujours plus de brèves. Je suis désolé, c'est une obligation.
Et on va commencer avec le député de la France insoumise, Hugo Bernalicis.
Oui, qui s'est livré hier à une petite imitation lors d'une séance à l'Assemblée nationale.
Monsieur le Président, j'ai un message pour Madame la rapporteure, de quelqu'un d'important. Je voudrais vous dire, Madame la rapporteure, vous avez dit tout à l'heure qu'en 2008, j'avais pas eu le courage d'aller jusqu'au bout de ma réforme. Je tenais à vous féliciter quand j'étais président. Peut-être que c'était pour une bonne raison.
Je ne sais pas qui doit se faire plus de soucis, Madame le rapporteur ou Nicolas Canteloup, mais un des deux.
Passons à Philippe Martinez, qui a été réélu ce matin à la tête de la CGT.
Bon, en même temps, il était le seul candidat.
Ah bah oui, alors.
Oui, non, c'est vrai. Benoît Hamon, il serait capable de perdre une élection dont il est le seul candidat.
Évidemment. Côté Rassemblement National, l'assistant parlementaire de Nicolas Bay a été pointé du doigt, on peut dire, pour un déguisement antisémite.
Oui, ça c'est le truc avec le Rassemblement National. Ils ont beau se déguiser, on les reconnaît toujours. Hein. Ouais, il faut regarder la photo.
Il était habillé en rabbin avec le chapeau et les papillotes.
Ouais, le truc c'est que c'est toujours dans le même sens les blagues, parce que jamais on voit un juif se déguiser en membre du Rassemblement National.
Si,
Éric Zemmour. Ah oui, bah oui, pardon, autant pour moi. Oui, pardon, j'avais pas été
vigilant. Sachez également que près de 58% des électeurs de la France Insoumise pensent désormais que le Rassemblement National est un parti comme les autres.
Eh ouais, j'imagine que ce sont les mêmes qui pensent que Jean-Luc Mélenchon est un leader ouvert, calme et posé.
Pour finir avec la politique, dans l'Ain, un élu a réclamé des tests d'alcoolémie avant chaque conseil municipal.
Ouais, si l'idée se met en place à l'Assemblée nationale, Jean Lassalle aurait peut-être 100% d'absentéisme, malheureusement.
Selon une étude scientifique, année après année, la Lune continue de rétrécir.
Et oui, elle rétrécit tellement qu'on pourrait bientôt la rebaptiser la Palestine.
Parlons de cette star du web que moi je ne connaissais pas, mais qui est Grumpy Cat est décédé.
C'est un chat. C'est un chat.
Il était connu sur Internet comme étant le chat le plus ronchon du monde.
Voilà, et c'est donc officiel, comme il n'est plus là, le plus déprimant du monde, c'est Jean-Marc Ayrault maintenant.
Oui, alors passons à la Coupe Mulet.
La Coupe Mulet. Ah, ça, on en a parlé, il y a un festival de la Coupe Mulet à Boussu en Belgique, et France Inter y a envoyé ses meilleurs représentants en matière de journalisme dans le journal de 8h, c'est quand même le plus écouté de France. On écoute un participant au championnat de la Coupe Mulet.
Le mulet, c'est pouvoir regarder quelqu'un droit dans les yeux et lui dire « je suis libre ».
Gauthier, dans le civil, Michel Godemulet à la scène, invité avec son groupe à jouer au festival de la Coupe Mulet, ce jeune breton arbore la sienne depuis un an.
Bon mulet, c'est un mulet assumé en fait. C'est vraiment une manière de se dire qu'en fait, c'était pas si important que ça l'apparence, parce que c'est vrai que c'est une coupe un peu ringarde.
C'est vrai, c'est vrai. Hein, le gars n'est pas dupe, et le journaliste qui avait quand même envie de faire un beau reportage très complet, s'est même fendu d'appeler des spécialistes.
Même si c'est une niche, elle transparaît dans la mode.
Anaëlle Martin, coiffeur chez Tony & Guy à Paris.
On l'aime ou on l'aime pas. C'est vraiment une coupe de clivage et en même temps, c'est une coupe qui casse le genre. L'homme peut la porter, la femme peut la porter. Une coupe qui rassemble.
C'est une coupe de clivage, mais qui rassemble. On est fiers de savoir que le journalisme d'investigation n'est pas mort, comme la Coupe Mulet.
Oui, et le journalisme de brève non plus.
Non, heureusement, Alsace, 13 ans de réclusion pour avoir tué le dealer qui avait remplacé le cannabis par un carambar. Hein, objectivement, c'est quand même la meilleure blague que carambar ait faite déjà.
Allez, la dernière,
dans les Landes, il copie la plaque d'immatriculation de son voisin, puis passe en trompe devant un radar. On va pas se mentir. On rêve d'aller à la prochaine fête des voisins avec des pop-corns.
Merci Alex.
Mais de rien, c'est cadeau.
JP Nataf, Jean-Claude Urbain sont avec nous, les innocents, jusqu'à 18h. En attendant d'écouter Christine Gonzalez, Mélanie Boer et Thomas VDB, on va aborder ce premier sujet car l'Europe est un sujet trop technique dans les débats qui manque de souffle. Alors Benoît Hamon a eu une idée.
Ça fait rire Alex.
C'est le seul qui a vraiment des idées quoi. Hop, le revenu universel, voilà. C'est de lui.
La reconnaissance d'une citoyenneté européenne. Elle permettrait d'offrir les mêmes garanties à tous les citoyens en matière de droits humains, sexuels ou sur la fin de vie. Bon, par exemple, il est vrai déjà que la peine de mort a été abolie dans tous les États européens. La nationalité européenne peut-elle faire naître un plus grand sentiment d'appartenance?
Mon ami d'Angleterre m'a dit j'ai trop de brume. Mon ami d'Italie m'a dit j'ai souvent faim. Bruxelles et Amsterdam sont pleins d'amis que j'aime. De grands-pères espagnols avec du sang germain.
Il s'appelle André Dassary, chanteur d'opérette basque. Et il ressemble un petit peu à Christophe Barbier quand il a une écharpe, c'est pour vous situer un petit peu la chose. Alors, Les Innocents, ça vous plairait d'avoir une nationalité, disons, peut-être franco-européenne, et d'avoir une carte d'identité européenne?
Pour vous, moi, j'avais l'impression d'être un peu comme ça déjà, non?
Ah oui.
Ouais, moi j'adhère. Enfin, c'est juste le problème d'apprendre un minimum de phrases
dans toutes les langues.
Qui deviendront des dialectes du coup. Ouais. Donc ça, voilà, ça va freiner par le moment les enthousiasmes. Mais sinon, moi je suis pour. D'assaut, toujours, j'aime bien les idées de Hamon. Et d'assaut,
il me touche. Oui.
Ouais, j'aime bien. Le mec, ça peut pas dire que ce soit un winner.
Pas encore.
Voilà, il y a ce truc-là, mais peut-être c'est ça que j'aime bien. Je sais pas, mais bon.
Oui. L'idée vous paraît pas mal, mais vous sentez déjà.
Mot, j'écoute quoi.
Ouais. C'est-à-dire que l'idée me paraît pas mal. Ouais. Voilà, mais j'ai l'impression que je.
Peut-être mais pas de notre vivant.
Vous avez déjà ce sentiment d'appartenance pas de européen.
Oui, enfin, il me semble.
Qu'est-ce qui vous fait sentir européen justement dans.
Enregistré en Belgique, par exemple.
Oui. Bah non, je crois quand même que la monnaie a aidé beaucoup les choses, les échanges, les avions, les transports. Enfin bref, je trouve qu'on est quand même assez européen. On pollue pas mal quand même partout.
C'est un bon point commun qu'on a.
On fait la même connerie.
On y va tous, quoi. Donc je trouve qu'on. Je sais pas. Après, peut-être que c'est bien d'avoir une nationalité, peut-être par rapport.
C'est un ciment,
qui vise peut-être le commerce. Mondial ou je ne sais pas, mais je crois que dans les droits on est déjà bien. Enfin,
on
il
a
me
déjà
semble.
Un peu des régions. Enfin, nous, les gens qui font, on n'est pas dans les échanges commerciaux ou tout ça.
Oui.
Moi, j'ai des neveux à Berlin. Enfin, je sais pas, c'est très, enfin, tout ça est très fluide quand même.
Oui. Christine Gonzalez, vous parliez de la Suisse qui a déjà différents niveaux de pouvoir et qui prend des décisions.
Oui, on a trois couches de fédéralisme. Il y a le niveau de la confédération, les cantons et les communes, avec chaque fois ses lois et ses règles et ses devoirs. Et, parfois, entre cantons, on a des droits qu'on n'a pas ailleurs chez le voisin, avec une Suisse au-dessus qui régit le tout. Enfin, c'est déjà, je trouve, très, très.
Donc ça s'annonce compliqué, cette histoire compliqué, de droit européen.
Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que vous connaissez suffisamment entre voisins l'Europe? Est-ce que vous connaissez très bien finalement
c'est
vos voisins.
C'est le fou la poule, parce que c'est lui, ce qu'il voudrait, c'est qu'on se connaisse mieux de par ça.
Mais est-ce qu'un passeport suffit à cimenter les uns aux autres? Moi, il faudrait d'abord apprendre à se connaître, peut-être, non?
Mais ça marche aussi en France.
Enfin, c'est vrai. D'une région. Alors on est région à l'autre.
C'est vrai, d'une région à l'autre. Les Innocents avec nous, donc nous on est prêts hein, pour une carte d'identité.
On estime qu'on l'a. Je suis d'accord avec lui, on estime qu'on l'a déjà.
Thomas VDB, tiens.
Non, c'est moi.
Mélanie Bauer. Non, tout à fait.
C'est
exactement ce que j'allais dire.
Est-ce que j'ai rendez-vous là? Est-ce que je peux le faire d'abord?
Ce serait pas vendredi? Ce serait vendredi.
C'est vendredi, ça sent la quille.
Ça sent le vendredi. Alors, comme l'expliquait très bien le groupe Musique Post-Bourgeoise il y a 10 ans, la pop en France est un genre sinistré, trusté par des sourds qui travaillent dans le son, comme on bosse chez Ricard, parce que c'est cool qu'il y a des filles et qu'on peut s'habiller n'importe comment.
Quand tu te rends compte que les chanteurs que tu détestais petit passeront pendant toute ta vie à la radio, tu l'as vraiment dans l'os du cul.
Hashtag MeToo. Voilà, tout est dit. Et voilà la solitude dans laquelle j'ai passé ma vie de critique musicale en France. Heureusement, il y a des exceptions, des petits miracles qui, en toute humilité, m'ont tendu la main, rendu d'espoir en l'humanité. Une humanité plus fine, plus douce, comme les Innocents. Parce que la pop, qu'est-ce que c'est? C'est une harmonie fragile, héritée des Beatles et de Stevie Wonder, des compositions hyper complexes qui donnent l'impression de couler de source, avec des textes fins, universels, et poétique et des harmonies de voix subtiles, des chansons comme ça.
Et peut-être un beau jour pourrons-nous vivre un peu mieux ensemble. Tu en parles.
Ou alors encore des chansons comme ça.
Mon âme, où est mon âme?
Bah Bah oui, c'est pourtant pas compliqué, voilà, c'est ça, la pop telle qu'elle devrait toujours se décliner, celle qu'on a l'impression de connaître par cœur, des petites histoires de vie très référencées, et pourtant qui surprennent par leur fraîcheur et leur nouveauté. Malgré toutes ces chansons écrites, les Innocents arrivent encore à en créer de nouvelles, pareilles mais si différentes. C'est magique, on est touché par des subtilités de texte, on attend la suite, on a envie de pouvoir chanter ces chansons, on se sent lové dans des émotions subtiles, pudiques, sincères, on est en confiance dans un hamac suspendu entre le réel et l'imaginaire.
Chérie, danse pas trop vite.
C'est facile d'arriver à ce niveau de subtilité, de maîtrise du son pop quand on a 30 ans de carrière, hein, qu'on est un couple musical qui se comprend et qui se laisse tout autant l'espace pour créer l'un sans l'autre que les moyens d'exister ensemble. Et là, je vous réponds, alors pourquoi est-ce que c'est plutôt à ces gens-là que pensent les médias et les producteurs de spectacles quand on leur dit reformation de duo pop de 30 ans de carrière ?
Regarde, le jour se lève.
Bah oui. Ça fait trembler le visorex, ça. Mais pourquoi, oui, on l'a vraiment dans l'os du culte. Les Innocents sortent un sixième album et demi, 10 titres d'orfèvrerie, d'orfèvrerie, le tic-tac de la pop parfaite. Je vous le disais en introduction, une ligne claire et lisible entre l'album blanc des Beatles et le Songs in the Keys of Life de Stevie Wonder, porté par des mots choisis. La pop telle qu'elle devrait toujours être, sublimée par le talent de parolier et de chanteur de J.P. Nataf. Une flèche lancée entre ces albums concept qui devraient être les bases de tout compositeur de pop qui se respecte, un arc-en-ciel dans la misère musicale qu'on nous impose chaque jour depuis des décennies pour la bande-son de nos vies. Aimez-les, les Innocents.
Aime-moi ce soir, ne t'en va pas déjà, on se connaît pas justement. On se manquera pas. Parle-moi plus fort, que j'en ai plein le corps. Ce que je te dis là, moi normalement, je ne le dis pas. Non, jamais, je ne dis rien. Je ne dis rien, jamais. Je ne connais pas ma ville. Je ne connais pas. Et je ne bouge pas d'ici. Je ne bouge pas. Yeah.
l'album des Innocents et ce titre Aime-moi qui clôture le disque 6 et demi.
Merci Mélanie Bauer.
Merci.
Les Innocents sont en tournée le 31 mai. Vous serez à Lignières en Berry au Festival L'Air du Temps. Au mois de juin, vous passez par Bordeaux, Tourcoing et Lorient. Le 19 juin à Paris au Café de la Danse. Et le 13 décembre, Paris, ce sera la salle Pleyel. Je vous donnerai d'autres dates tout à l'heure car vous êtes en tournée les Innocents. Et de passage dans Par Jupiter. C'est exact?
Oui, oui, oui. Okay. C'est le début de notre tournée.
C'est le début de la tournée. Ça n'est pas encore Thomas VDB à ce moment-ci.
Non, ça on a bien vérifié.
Ça on a vérifié. En revanche, c'est avec Christine Gonzalez.
On dirait moi sur scène quand je me dis c'est quoi la chanson suivante, quand on se regarde, c'est quoi après et
tout. C'est pareil avec Vizorek.
Exactement, oui.
C'est Christine, Christine, vas-y.
Un jeu télévisé culte est de retour à l'antenne en quotidienne. Cette semaine, après presque 10 ans d'absence, TF1 lance une nouvelle version de Qui veut gagner des millions. Dans l'au-delà aussi, on y joue et on adore ça. Notre candidat du jour est un écrivain, philosophe, prix Nobel. Il s'appelle Albert Camus. Comment ça va, Albert? Ça fait presque 60 ans que la mort nous sépare.
Je ne me suis jamais senti séparé.
Enfin, je voulais dire que ça fait 60 ans que vous êtes enterré.
Évidemment, c'est le destin de tout artiste que d'être enterré. Et je ne vois pas pourquoi j'échapperais personnellement à ce destin.
On commence à jouer?
Oui.
Première question à 100 euros. Quel est le livre le plus vendu en ce moment en France? A. Ghost in Love de Marc Lévy. B. Le dernier jour d'un condamné de Patrick Balkany. C. L'étranger de Marine Le Pen. Vous hésitez?
Il n'y a pour moi que des écrivains secondaires, des polygraphes, des tâcherons qui prestent au second plan.
Mais on va passer comme ça. A, B ou C?
A.
Vous avez dit A. Marc Lévy, et la bonne réponse est A.
Oh là là.
Bravo Marc Lévy. Ghost in Love.
Eh bien, ça prouve qu'on les lit mal, les livres en question.
Oui, mais ils vont. Enfin voilà, c'est comme ça. Vous gagnez 1000 euros, bravo. La question suivante est à 10 000 euros. C'est une question de poésie, vous devriez trouver. C'est en plus c'est de la poésie du XXe siècle. Je cite. Un lapin a tué un chasseur. C'était un lapin qui... C'était un lapin qui... avait un fusil. La question est... Quand le lapin a-t-il tué le chasseur? A. C'était un matin. B. C'était un soir. C. C'était un jeudi. Alors, quand le lapin a-t-il tué un chasseur, Albert Camus?
Un matin.
Bravo Albert Camus. Quel suspense. Alors on aime jouer, mais alors...
Cela suppose une interminable tension.
Une tension terrible, oui. Nous grimpons sur l'échelle des gains. Nouvelle question pour 100 000 euros. Quelle est l'actualité la plus pénible à suivre en ce moment pour les Français? A. Le Festival de Cannes. B. Le journal de presque 17h17. C'est les élections européennes.
Là,
c'est. Ouais, c'était facile. Hein. C'était facile, les élections européennes. Pourquoi tout le monde s'en fout, à votre avis?
L'homme européen, aujourd'hui, hésite et tourne de tous les côtés, ne voyant à choisir, apparemment, qu'entre la servitude ou la folie.
Alors, quelle perspective nous reste-t-il, selon vous?
La stérilité ou la mort.
Très bien. Bon, Albert Camus, on arrive à la question à 1 million d'euros. Quelle structure cimente les valeurs politiques françaises? A. L'illusion d'une structure démocratique. B. La structure méritocratique, appelée aussi si tu peux, si tu veux, tu peux, traverse la rue, trouve un job. C. La structure moléculaire de l'acide désoxyribonucléique.
Eh bien...
C'est tendu, hein.
On peut le dire.
Alors, vous savez, vous avez encore tous vos jokers, hein, si vous voulez qu'on lance un coup de fil à un ami.
Oui.
Ok, alors on y va, téléphone.
Allô, qui vous êtes?
Qui veut gagner des millions avec Albert Camus? Et vous, qui vous êtes?
Dali.
Salvador Dali?
Oui, c'est moi-même.
Bon, alors pour 1 million d'euros et votre ami Albert Camus, savez-vous quelle structure cimente les valeurs politiques françaises?
Que la structure moléculaire de l'acide
Désoxyribonucléique.
Vous validez cette réponse, Albert Camus?
Oui.
Excellente réponse. Ouais.
Ça sert à bien.
C'était l'acide. Vous êtes heureux, Albert Camus, hein?
La souffrance n'a pas plus de sens que le bonheur.
C'est donc la joie. Merci, Albert Camus. C'était Qui veut gagner des millions de l'au-delà. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain avec une autre personnalité de l'au-delà, à savoir Grumpy Cat, le chat préféré des internautes, mort tragiquement à la suite d'une infection urinaire. Belle soirée à toutes et à tous.
Merci Christine Gonzalez et bravo, bravo encore une fois.
J'ai été repris par nos internautes parce qu'on s'attaque vraiment à une icône. Il s'agit de une chatte.
C'est une chatte.
Oui, voilà. Oui, non, mais moi j'ai fait l'erreur tout à l'heure. Et
évidemment, c'est vrai, c'est une chatte.
Pardon.
Oui, non, c'est une chatte.
On est revenu en 2019 et la star qui est morte est une chatte. On attaque Camus. Et... Non, mais voilà, bah, c'est il faut le grand écart. Quoi. Merci Christine Gonzalez de la Radio Suisse avec nous tous les vendredis. C'est toujours pas Thomas VDB, mais c'est bientôt. Avant, il y a un sujet avec les innocents qui nous accompagnent jusqu'à 18h. À chaque fois, ça vous fait un coup au cœur, Thomas. Concentrez-vous. Les plateformes pour écouter de la musique nous proposent une offre illimitée de titres. Comment choisir ? Eh bien, heureusement, les algorithmes permettent de nous proposer des recommandations en fonction de nos goûts. Ça, on sait très bien, déjà depuis longtemps. Sauf que ce système qui dirige nos choix va jusqu'à influencer nos goûts, car des chercheurs viennent de prouver, grâce à une expérience sur 169 étudiants, que quand on leur fait croire que tel morceau s'inscrit dans leurs préférences, alors que c'est pas vrai... c'est volontairement faussé, eh bien une partie est prête à payer pour acquérir le dit morceau. Donc à terme, cela peut donc modifier nos goûts, ce qui revient tout simplement à être manipulé.
Le plaisir d'un vrai vendeur, c'est de vendre à des gens qui n'ont absolument pas besoin de ce qu'on leur propose ou qui n'ont pas de quoi se le payer. Quand ces deux cas sont réunis, alors c'est là que le sport commence.
Jean-Pierre Marielle dans L'Entourloupe, le film de Gérard Pires. C'est un article paru dans Le Monde qui nous explique donc que, bon, on sait que les algorithmes fonctionnent, font des recommandations, mais à tel point que ça peut influer sur le goût des gens.
Je fais ça depuis des années, ça ne choque personne.
Oui, c'est ce que j'avais dit. C'était le mec du bistrot. En fait.
Oui. C'est-à-dire...
Ou les radios, même bêtement. Ouais. On allait à la radio, on entendait un truc qui nous plaisait, puis on restait sur cette station-là, et puis du coup, on entendait autre chose, et puis... On achetait un disque alors qu'on en avait, on aurait pu en écouter un autre. Enfin bon. Mm-hmm. Puis sinon, on allait chez un disquaire et puis il disait: ah ouais, toi t'aimes ça, tiens.
Vous trouvez que c'est la même chose que des algorithmes par les GAFA?
Les gens, c'est plus rigolo, on peut s'engueuler avec eux.
Ouais.
Quoi. Et par contre, on m'a dit aujourd'hui aussi qu'il paraît que 90% des gens qui vont sur je sais plus lequel, Spotify ou Deezer, en fait, ne font pas de recherche. C'est-à-dire qu'ils prennent le premier truc qui apparaît.
Ah oui.
Ouais, ils écoutent les playlists qu'on leur propose. D'accord. Mais ils font pas de recherche, ils vont pas chercher un artiste
sur Pornhub, je fais pareil.
Vous dites justement non mais c'est intéressant ce que vous dites chercher un artiste. C'est vrai que là donc on nous impose les choses, après ça permet de faire des découvertes aussi, mais cet article dans Le Monde nous dit aussi que devant l'offre illimitée, plutôt que d'aller farfouiller, comme les librairies et lire 3 pages d'un livre ou aller écouter les 30 premières secondes d'un titre, etc. Il y a moins la démarche volontariste.
En même temps, tout ça, c'est un peu oppressant, quand même. C'est pas rentrer dans une librairie, enfin, je sais pas, à un moment. Non, mais c'est vrai. Moi, j'adore acheter des disques encore, ou des bouquins, de ça. C'est assez vertigineux, parce qu'il y a tellement de trucs qui sortent, tout ça. Enfin, c'est très,
vous vous sentez
très
plus
compliqué.
Libre derrière un écran, ou personne?
Non, mais j'aime bien quand
demander...
quelque chose me mâche le travail. Alors, je donnerai jamais ce blanc-seing à une machine.
Ouais.
Mais j'aime bien quand c'est Jean-Gris qui me dit: tiens, j'écoute une chanson, elle est vachement bien. Ça m'évite d'en écouter 2760 pour me demander si j'aime vraiment, ou si ça me fait penser à un truc que j'aimais plus. Ou...
Enfin, voilà, est-ce que vous êtes curieux, si on tape Les Innocents dans Amazon, Spotify ou sur le site de la FNAC, qui dit aussi ceux qui ont acheté Les Innocents ont aussi acheté ceci, et il y a toute une liste en bas.
Ah, je préfère pas savoir, moi.
Vous pouvez pas savoir? Qu'est-ce qui pourrait y avoir si on aime Les Innocents?
Christophe Maé. Non.
Là, vous en tirez bien, non?
Non. Non. Alors non, on a vérifié sur Amazon. Sur Amazon,
j'ai dit Stéphane Escher.
Oui, ouais. Vous avez regardé alors.
Ouais. Ah, mais il a regardé la Suisse.
La Suissesse, c'est vachement bien, Stéphane Escher.
Oui, on n'a pas dit ça.
Énervé. Mais vous sentez qu'il y a une filiation?
C'est pour ça que je l'ai dit en premier.
Ça vous semble logique?
Oui, mais je crois que
c'est
toujours
vous,
difficile de faire des associations. Déjà, de parler de musique, c'est une bêtise. Enfin, parce que il faut que t'écoutes, c'est bien. Ça veut dire quoi? Je ne sais pas. Donc après, c'est peut-être le côté commerce qui est un peu dramatique dans l'histoire. Mais je comprends qu'on puisse se dire: tiens, bah si vous aimez Les Innocents, vous aimerez
Mais en fait, le petit disquaire avant, le petit disquaire, il vendait que des disques qu'il avait commandés déjà. Il y avait une centrale d'achat, il en prenait déjà que 10 sur 200. Donc
Andrew Bird, c'est bien.
Ouais. Oui, Andrew Bird, il est bien, le dernier.
Falls et David Bowie. Meilleur album. À la Fnac, en revanche, ceux qui ont acheté votre album ont aussi acheté Keren Ann, Les Ogres de Barbac ou Dido. Ouais,
tout voilà. ça va.
Dido.
Dido.
Oui.
Il paraît qu'on se sent obligé d'aimer quand c'est recommandé. C'est ça aussi qui aiguille les gens.
Moi, j'ai un esprit de contradiction.
Ouais, c'est ça.
Plus on me dit que c'est bien, et
moins vous y allez.
Ah oui. Bah oui. C'est pas plus intelligent d'ailleurs. Ouais. Mais...
Une réaction autour de la table avec les. Vous utilisez ça, les recommandations?
Alors, moi, je fais ça depuis des années avec un site qui s'appelle omusic.com où j'adore les classifications. J'aime bien qu'on fasse des cartes de la pop, des cartes, etc. Et en fait, c'est très subjectif et en même temps, c'est très rigolo parce qu'on se dit ah oui, c'est vrai, ça correspond bien ce son avec tel son, etc. C'est un jeu de geek. Moi, j'aime bien. Bon, après. C'est vrai que la facilité, avant on était obligé d'acheter les disques, d'aller chez le disquaire, d'acheter les disques dès qu'on nous disait ça ressemble à Bidule, etc. Maintenant on a juste à cliquer, à se dire ah bah oui, ça me parle ou ça me parle pas, c'est quand même plus facile.
Ouais, parce qu'il y avait des quêtes très très longues. Moi, quelquefois, je cherchais un disque pendant 2 ans, puis d'être déçu finalement.
C'est très long.
Oui, c'est fatigant parce qu'on paye des billets de train, des machins à dos. Là, quand même, c'est vite réglé. Et puis après, ce qui est quand même rigolo, comme disait Jean-Cri, parler de musique, tout ça, c'est un peu abstrait ou de cinéma. Mais ce qui est génial, c'est le fait d'en parler. Après, on n'est pas obligé du tout de croire. Moi, quand j'écoute Le Masque et la Plume, je prends un grand plaisir quand il parle de théâtre et que j'ai jamais le temps d'aller au théâtre, je suis très content de les avoir entendus pendant une heure. Voilà,
ça se tire du mal. Moi, j'aime bien le principe de la Cinéthèque, donc le site de cinéma de Pascal Ferrand, où des grands réalisateurs donnent leur liste de films préférés.
C'est un algorithme humain.
Exactement. Et donc, ce serait sympa, peut-être aussi que les chanteurs, moi, j'aimerais bien savoir.
Le disquaire est un algorithme humain.
Quels sont
10
disques que vous nous imposeriez d'écouter?
Mais alors, moi, on nous pose toujours la question dans le même sens. Moi, parfois, ce serait aussi intéressant de savoir 10 disques qu'on déconseille absolument.
Oui, pourquoi pas, bien sûr.
Non, mais c'est vrai.
Au moins un.
Par les temps qui courent, pas mal. Moi, j'aime pas du tout.
On a l'embarras du choix aussi. C'est illimité.
Ouais, non, mais si, j'ai entendu comment c'est. Columbine, un groupe de rap français là.
Voilà,
Columbine. Ouais.
Voilà. Et donc, vous les détestez?
Non, je les déteste pas. Mais j'entends ça à la radio et je trouve qu'il n'y a pas de. Alors, ça, c'est le troisième sujet parce qu'évidemment, nous, on a.
Oui, on va y arriver.
Il y a un troisième sujet.
Donc, vous êtes au taquet.
Le
gars est au taquet. Thomas VDB, attention.
Ah, c'est VDB.
Vous m'avez mis la pression depuis tout à l'heure. Écoutez, non, moi, je voulais dire que voilà, le procès de Patrick Balkany a commencé depuis cette semaine. Patrick Balkany, petit prince de l'ISF. Alors je sais ce que vous dites, c'est vrai que c'est pas très approprié de parler du procès Balkany le jour où on reçoit les innocents. Moi je voulais pas me moquer de Balkany parce que c'est vrai que c'est terrible ce qui se passe pour lui en ce moment. Il y a le procès mais on sait le drame qu'il vient de vivre, sa femme a fait une tentative de suicide. C'est horrible. D'ailleurs, ça nous a bien calmés, nous, les comiques.
Oui,
ça nous a bien calmés parce qu'on se frottait les mains, on se disait, oh là, cool, il y a le procès Balkany qui arrive, on va enfin pouvoir rigoler un peu. Et c'est vrai qu'on est sur les rotules depuis 6 mois à faire des blagues sur les gilets jaunes. Et pour nous, ce procès Balkany, ben, c'était une bouffée d'oxygène, quoi. C'est sûr qu'on allait pouvoir rigoler. Et là, ben, elle nous a bien coupé la chic, Isabelle Balkany, quand même. Donc nous, on n'a rien dit, c'est vrai, on s'est bien tenus, on s'est retenu de faire des blagues. Et de façon totalement inattendue, cette semaine, eh ben, c'est Patrick Balkany lui-même qui a donné le feu vert. Qui a donné le feu vert pour les blagues. La vidéo, elle a beaucoup tourné. Après une journée d'audience, il y a l'avocat de Patrick Balkany, Éric Dupond-Moretti, qui est en train de faire une déclaration à la presse. Et c'est vrai que Éric Dupond-Moretti, c'est quelqu'un qui, de base, il a toujours l'air à bout. Il est un peu, il est souvent excédé comme ça. Là, en plus, pour le procès, le gars, il vient d'éplucher toute la compta de Patrick Balkany. Autant dire qu'il est rincé, je pense, le gars. Il est obligatoirement rincé. Et donc là, il est en pleine déclaration à la presse, en train de parler de l'état de santé fragile d'Isabelle Balkany et de son client qui a 71 ans. Et là, Balkany, il a un petit dans la tête, il a un petit lutin dans la tête qui lui dit « Envoie une bonne vanne, Patrick !» Et après toutes ces années, apparemment, Balkany, il continue de faire confiance au petit lutin qu'il a dans la tête. Donc il coupe la parole à son avocat et devant tous les journalistes, il dit « Pas 71, 70 ans, ne me vieillissez pas quand même !» Bon, alors là, Éric Dupond-Moretti, il a un peu le regard de Gérard Depardieu dans La Chèvre, quand Pierre Richard il s'enfonce dans les sables mouvants et qu'il n'en peut plus, Depardieu. Il n'en peut plus. Parce qu'on comprend que jusque-là, on croyait que la tête qu'il avait, c'était une tête excédée. Non, c'était sa tête de base. C'est là qu'il devient vraiment excédé, en fait. Et là, il se tourne vers Balkany du premier métier, il dit arrêtez. Et alors c'est fou, mais à ce moment-là, quand j'ai vu Balkany se faire rabrouer par Dupond-Moretti, qui lui dit devant les caméras, mais arrêtez, je vous jure que c'est vrai, pour la première fois de ma vie, Patrick Balkany m'a fait de la peine. Mais vraiment, sincèrement, j'ai eu mal pour lui, comme quand t'as un pote un peu relou qui met la honte et arrête, non mais arrête, là c'est gênant, vraiment c'est gênant. Et du coup, voilà, il m'a fait de la peine, et du coup, j'ai commencé à m'en vouloir d'avoir de la peine pour Patrick Balkany, parce que j'étais pas prêt, c'est la première fois que je culpabilisais d'avoir de la peine pour quelqu'un, pour Patrick Balkany qui plus est. Alors hier, le coup de grâce est arrivé à l'ouverture du procès, parce que donc le procès était en train de commencer, les gens étaient terminés de s'asseoir, et puis d'un seul coup, on a entendu et donc c'était le portable de Patrick Balkany qui sonnait avec la musique des Tontons Flingueurs. Alors faut imaginer Balkany en train de chercher son portable pendant qu'il sonne. J'ai foutu ce portable de merde, moi, avec la musique des Tontons Flingueurs qui sonne, parce qu'à ce moment-là, faut bien se dire que dans le tribunal, tous les gens qui sont là, qui n'avaient eux-mêmes jamais eu l'idée d'associer Patrick Balkany au Tonton Flingueur, ils se sont dit, bah oui, c'est évident, c'est sa sonnerie portable, là, ce gars-là, comment veux-tu que ça se fasse autrement, c'est normal. Alors, j'ose pas imaginer le regard réprobateur qu'il a dû se prendre de Éric Dupond-Moretti à ce moment-là. Je pense Balkany, c'est le seul gars, quand il arrive au tribunal, il a plus peur de son avocat que du procureur. Il a, putain, ce que je vais manger aujourd'hui encore, moi, c'est sûr. Bon, en même temps, tout le monde dit que c'est la musique des Tontons Flingueurs, mais c'est aussi celle de la pub des opticiens Général d'Optique. Et donc, je me dis, bah, si ça tombe, c'est juste que Balkany, il a des lunettes. Il y a bien la pub de Général d'Optique. Bon. Et c'est vrai que, la ligne de défense de Éric Dupond-Moretti, en tout cas, pour le procès Balkany, il l'a donné hier, c'est de dire, bah oui, bah, il a fait de la fraude fiscale, mais bon, mais tout le monde fait ça. Et je me dis, alors, est-ce qu'on ne peut pas dire que quand un des meilleurs avocats de France, il choisit comme ligne de défense, bah, tout le monde fait pareil? Est-ce que le gars, il a pas un peu baissé les bras? Est-ce qu'il a pas peur à l'épaule, finalement? Est-ce que ça compte pas pour abandonner? Oh bah c'est bon, les autres ils font pareil. Je me dis voilà. Enfin en tout cas Balkany, il faut au moins lui reconnaître ce talent. Il est pas tout noir dans cette affaire parce que ok, lui aussi il cache de l'argent, lui aussi c'est un escroc, mais au moins il nous fait bien rigoler. Alors merci et courage Patrick.
Merci Thomas VDB. Vous pouvez le revoir sur franceinter.fr et puis sur notre page Facebook bien sûr. VDB en image. Voilà. Allez, on poursuit avec Les Innocents. Les chansons pop ont tendance à être tristes dans notre époque. Très légère. La déprime ambiante se ressent jusque dans les tubes du moment. Bon, déjà, Adele ou Amy Winehouse, c'était pas la lambada. Mais c'est sûr que passer de Charles Trenet à Lana Del Rey, c'est le grand écart. Et pourtant, quelqu'un a réussi à marier les deux.
La tristitude, c'est quand tu viens juste d'avaler un cure-dent.
L'ami Oldelaf, bien sûr, qui est venu récemment chanter avec Frédéric Fromet.
J'aurais eu envie que la phrase suivante, quand tu te rends compte que ton père est suisse-allemand, je pense oui. Que ça aurait beaucoup fait rester.
C'est un article publié sur Slate. Empiriquement, vous faites ce constat, vous, la pop est tristonde parce qu'elle absorbe.
J'allais continuer ma phrase de tout à l'heure.
Allez-y, alors j'ai pénétré.
Les pauvres qu'on l'emmène, j'en veux pas de rien. J'ai écouté un concert et tout. C'est juste que je trouve que c'est la musique qui est triste, en fait. Parce que les paroles, c'est toujours, on a toujours chanté les émois du cœur, les déchirements, le. Ouais. Voilà, mais les musiques sont tristes, alors que je trouve qu'avant il y avait une façon de un peu, je sais pas, il y avait de la joie en tout cas, ou quelque chose qui s'exprimait dans les arrangements, la musique, c'était voilà. Ça, donc il y avait des très belles chansons. On disait mon amour est parti, je sais pas, c'est dur ce matin, la vie me semble déserte. Mais les musiques sont assez tristes. Oui,
c'est un peu tout dans le même sens, je trouve. Quand une musique est triste.
C'est
bien quand les paroles viennent un peu chatouiller, qu'on ait un double sens au moins. Mm-hmm. Et c'est vrai que des fois, quand on écoute un certain type de chanson, c'est toujours un peu.
Il y a une sorte de
des violons sur une rupture.
Oui, et puis il y a une mélancolie un peu prémâchée quand même. Mm-hmm. Il y a des suites d'accords qui sont un peu les mêmes dans toutes les chansons.
Vous aimez Stromae, qui lui met des paroles tristes sur des chansons plutôt gays.
Oui, je crois que c'est toujours intéressant. Après, c'est aussi ce qu'on a de. Nous, on est un peu pudique comme ça, donc dès qu'on dit quelque chose d'un peu profond, on va le cacher avec des accords.
C'est vrai que de quoi suis-je mort?
Oui, voilà, là, bon, effectivement. Effectivement, mais il y a de la mandoline. Il y a de la mandoline.
Il y a de la mandoline.
Et puis tout le monde fait ça.
Les Innocents avec nous et un guitariste vient d'entrer dans ce studio.
Regardez-le bien parce que vous allez partager la scène avec lui à l'Orme le 20 juillet. Frédéric Fromet.
Enfin, on partage pas grand-chose, nous, on est sur scène.
Non, il sera
au même endroit, à la même date.
Voilà, ouais. C'est ça, grand festival. De quoi allez-vous nous chanter, Frédéric?
Eh bien, revoilà les Balkany. Ah mais avec l'aide d'un spécialiste en fiscalité, Florent Pagny.
Si tu veux magouiller, t'en foutre plein les poches, sans rien à te reprocher, comme Isa et Patoche.
Si tu veux magouiller, garde bien en tête qu'à Levallois-Perret, on est pauvre et honnête. On n'a pas un radis, on est dans la dèche. Pas de villa, pas de jacuzzi, pas de palais à Marrakech. Si tu veux magouiller, faire le filou, les Balkany l'ont juré, pas de ça chez nous. Nous sommes les gens les plus honnêtes du monde, mais si tu veux magouiller, c'est pas un problème. L'expérience a prouvé qu'on vote pour toi quand même. Si tu veux magouiller, cacher ton patrimoine, crois-tu que Levallois-Perret soit le Liechtenstein? Bon, peut-être un peu, mais est-ce vraiment mal? Qui peut prétendre être amoureux d'un agent de l'administration fiscale? Si tu veux magouiller, avoir des casseroles au cul, les Balkany l'ont juré, jamais corrompu. Ma femme et moi avons horreur de la corruption. Si tu veux magouiller, t'en foutre plein les poches, n'oublie jamais de nier comme Isa et Patoche. Et si Levallois-Perret, et si Léo de Seine était plus mal fréquenté que la prison de Fresnes.
Frédéric Fromet, merci Frédéric. Merci. Et merci aux Innocents qui sont venus nous présenter leur album 6 et demi. Ils démarrent leur tournée. Ils passent notamment à Puy-l'Évêque au mois de juin, à Tilleulois, au festival Rétro C'est Pop le 30 juin. Vous passez par la Belgique parce que j'ai vu qu'il y avait Mons et Bruxelles. Le 13 décembre à Paris, salle Playel. Avant cela, le 19 juin, toujours à Paris, le Café de la Danse. Toutes les dates sont bien sûr disponibles sur vos sites.
Sûrement.
Évidemment, bien sûr.
Merci. On oriente vers d'autres spectacles.
Merci les Innocents et merci à toute notre équipe. À la préparation, Nathalie Romero, Sarah Masson, Fabrice Rivaud, Mathias Volant, Ramzi Assadi, Emma Ferret, alias elle m'a pas jugé quand j'ai repris du vin à midi. Anne-Sophie Ladonne à la réalisation, à la technique, Élise Christophe et Mathias Alléon. On va se retrouver lundi. Merci à les amis. Le mot de la fin.
Qui est ce mot de la fin?
Au patriotisme. Voilà.
Aux armes, citoyens, tête de chien, formez vos bataillons, bande de couillons.
À la droite.